Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour, elle a souvent été promise, avec tambours et trompettes, mais souvent bien convaincante. C'est la simplification. Alors peut-on croire cette fois-ci aux 50 mesures présentées hier par Bruno Le Maire? Il appelle ça le plan d'action simplification. On va retrouver tout ça dans un texte de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres et qui sera débattu cet été au Parlement. Pendant le même temps, Gabriel Attal, Premier ministre, se rendait à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, pour vanter la débureaucratisation de l'administration. Parmi les éléments à la généralisation d'Albert, l'intelligence artificielle, mise au point en juin 2023, déjà utilisée par les services de Bercy pour répondre aux 16 millions de questions annuelles que les Français posent à l'administration sur leurs impôts. Là, l'idée, c'est donc de généraliser à l'ensemble des sujets administratifs cette intelligence artificielle dont les résultats des premières expérimentations sont vraiment, vraiment très, très prometteurs. Faut-il corriger le déficit public? Patrick Artus posait la question dans Les Échos le 27 mars. Je l'avais posé sur ce même plateau à François Eckel de Fipeco. François Eckel dit c'est pas le moment. Alors c'est pas le moment, c'est le moment. Bon, on posera la question. On va aussi évoquer l'Union des marchés de capitaux. Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France, va remettre demain son rapport à Bercy. Et puis le chantage aux Jeux Olympiques, observé à la SNCF ou dans l'aérien, la paix sociale au prix fort à la SNCF a provoqué une indignation généralisée hier. Bonjour Patrick Artus.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, conseiller économique de Natixis. Vous êtes le co-auteur d'un livre qui va paraître le 15 mai, on va en dire un mot dans un instant. Quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde, chez Odile Jacob. Sylvain Arébi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, les Técousmi, et avec nous Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec à la une du numéro d'avril, qui aime l'Europe, point d'interrogation. Vous aimez l'Europe, Jean-Marc?
Oui, moi, profondément.
Profondément.
Profondément. Je suis même un lecteur régulier des mémoires de Jean Monnet. J'en suis à ma troisième lecture des mémoires de Jean Monnet. C'est un texte que je trouve très, très intéressant. D'ailleurs, c'est assez curieux, mais je ne veux pas faire toute l'émission là-dessus, mais dans la dernière émission de Jérôme Garcin au Masque et la Plume, dans les livres recommandés par un des critiques, il y avait les mémoires de Jean Monnet, alors que c'est plutôt des livres, des romans qu'examine le Masque et la Plume, en disant non pas que c'était un roman, mais que c'était un texte assez fondateur. Et donc, je suis pour l'Europe, pour Jean Monnet, pour...
J'ai bien aimé là,
le libre-échange pour tout ça.
Ça, le libre-échange, je le savais.
Oui, aussi. Mais l'Europe, normalement, est l'Europe autrefois et de Jean Monnet. Je rappelle, juste pour finir sur Jean Monnet, là, quand il arrive dans son bureau, dans la première chose qu'on lui présente, c'est son bureau. Il est dans le bureau de l'ancien ministre de l'Agriculture. Et il y a Jules Méline, qui a été un grand ministre de l'Agriculture, puisqu'il a rétabli des droits de douane. Et il a dit, écoutez, sortez-moi ça tout de suite, parce que je suis à l'opposé de Jules Méline. Et l'huissier lui dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Vous allez être obligé de le garder. Et donc, je pense que des problèmes de l'Europe, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il faut garder Jules Méline.
Il y a une phrase que j'ai trouvée dans les appels de une, même les europhobes se sont habitués à l'Europe.
Ah ben,
et c'est vrai qu'aujourd'hui, les partis très eurosceptiques, voire les frexiteurs, ont changé d'opinion.
Je pense qu'il y a la campagne présidentielle de 2017, il y avait des gens qui faisaient campagne pour la sortie de l'euro.
Bien sûr. C'est
je
fini.
Pense que c'est fini. Plus personne maintenant sur les c'était Marine Le Pen, donc elle était dans les candidats de référence susceptibles d'être élus. Et donc je pense que là, aucun candidat de référence susceptible d'être élu maintenant est sur cette ligne-là.
Non, plus aucun. D'ailleurs, alors le seul, mais il n'est pas de référence. C'est Florian Philippot qui lui.
Oui. Oui.
Mais non, mais effectivement, il n'y a plus aucun candidat de référence qui prône le Frexit. Quelle France en 2050 point d'interrogation, signé Patrick Artus, Marie-Paul Virard. Vous arrivez à y voir si loin, vous, Patrick?
On a renoncé à 2100. Alors même qu'on
avait hésité.
Alors même qu'on a des prévisions.
C'est pourtant plus sûr parce qu'on ne pourra pas vérifier.
Voilà. On a des prévisions démographiques de l'ONU en 2100, d'ailleurs qui sont assez extraordinaires. Vous savez que d'après l'ONU, il y aurait plus que 600 millions de Chinois en 2100, contre 1,4 milliard aujourd'hui. Et on part dans ce livre, on part justement de la démographie.
L'élément le plus prévisible.
On parle de la productivité. Et alors, on s'inquiète pour l'Europe ou pour la France, puisque et la démographie et la productivité jouent contre nous. Donc, si on fait une prévision un peu tendancielle, le poids de l'Europe dans l'économie mondiale et le poids de la France dans l'économie mondiale diminue très, très, très rapidement, même jusqu'en 2050. Hein. Ben, zéro gain de productivité et une démographie défavorable.
Donc, ça veut dire que vous partez du principe que le déclin de la productivité est structurel.
Ben, je pense que...
Le gouvernement fait le pari inverse.
Hein. Ben, oui, c'est un point important dont on a déjà parlé sur ce plateau. Et ben, je pense qu'il y a des problèmes structurels d'insuffisance d'investissement technologique, d'insuffisance de recherche-développement, d'insuffisance d'innovation, de rupture, comme dit Philippe Aguillon ce matin dans les échos. Et puis le vieillissement. Hein, le vieillissement est mécaniquement associé à des gains de productivité plus faibles. Et puis, on dit spontanément, l'Europe va devenir négligeable dans l'économie mondiale. La grande puissance de 2050, c'est les États-Unis.
Hein,
encore plus qu'aujourd'hui, les États-Unis écrasent l'économie mondiale. L'Inde ou l'Afrique croisent vite, mais sont trop petites initialement. Vous savez que l'Inde, par exemple, a un revenu par habitant qui est 16 fois plus faible que le revenu par habitant des États-Unis. Donc il faut beaucoup plus de temps pour que l'Inde. Et puis on part sur quels sont les remèdes pour l'Europe. Il y a des exemples étrangers à regarder. Le Japon et la Corée ont une situation démographique bien pire, mais ont fait un effort de robotisation absolument incroyable.
On en parlait hier, Patrick, un Sud-Coréen et un Japonais, c'est pas quelqu'un comme un autre. Un Japonais est capable de vivre une carrière entière sans exiger de hausse de salaire, et un Sud-Coréen est capable d'accepter, en tant que cadre dirigeant, de travailler un jour de plus par semaine, soit 6 jours sur 7, sans rien dire.
Oui, mais ils ont aussi fait cet effort d'incroyable robotisation. D'ailleurs, dans la vie privée et dans la vie d'entreprise. Donc, c'est un choix que doit faire l'Europe. Parce que, de toute façon, je ne crois pas qu'on redressera la démographie. Vous savez que le taux de fécondité en Italie est
c'est dramatique, juste
au-dessus de 1. Enfin bon, on essaie de dessiner des pistes pour que l'Europe ne disparaisse pas comme puissance économique en 2050.
Il y a eu la publication tout récemment d'un rapport signé Jean Tirole, assez terrifiant, sur la stagnation, voire le déclin de l'Europe, où il considère que c'est le continent des mid-tech. Et pas plus que ça.
Oui, quelque chose qu'il faut regarder. Si vous regardez les 10 plus grandes entreprises européennes et américaines, il y a 8 entreprises sur 10 en Europe qui existaient depuis des dizaines d'années, et il y a 8 entreprises sur 10 aux États-Unis qui sont nouvelles. C'est lié aussi à la protection de l'emploi. Hein. La protection de l'emploi fige la structure de l'emploi en Europe.
Et c'est la question qu'on a posée à plusieurs reprises, pourquoi c'est toujours l'Amérique qui gagne à la fin? Et puis c'est toujours l'Amérique qui gagne
à la fin. Oui, mais enfin, l'Amérique aussi fait pratiquement 2 fois plus de dépenses de recherche-développement que l'Europe. Hein. Donc c'est pas étonnant que l'Amérique gagne. Et il y a vraiment une corrélation forte entre le niveau de la recherche-développement et les gains de productivité.
Oui, moi je ne suis pas aussi négatif sur l'Europe. On a parlé du Japon.
Jean-Marc, je me tournais à peine vers...
Oui, non mais écoutez, on a parlé du Japon. Le Japon, c'est la robotisation, mais c'est aussi une épargne qui a été projetée à l'extérieur qui fait que le Japon détient la planète. C'est-à-dire que le Japon vit des revenus de ses placements à l'étranger. Je rappelle quand même que sur le commerce extérieur, nous exportons, l'Union Européenne exporte pour un peu plus de 500 milliards d'euros aux États-Unis et importe 360 milliards d'euros aux États-Unis. Et quand vous regardez l'évolution de la balance des paiements courants, non pas le solde commercial, mais quand vous regardez la balance des paiements courants, alors que pendant très longtemps, les États-Unis détenaient l'Europe. C'était le défi américain de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Pour ma génération, c'était les entreprises américaines sont en train de nous acheter et tout ça. Et maintenant, vous apercevez que, quand vous regardez la balance des paiements courants, maintenant, l'Europe est en train de grignoter sur les placements. Et donc, maintenant, le déficit lié au placement n'est plus que de 50 milliards de l'Europe, et il est en train de s'amenuiser, notamment depuis l'IRA.
D'accord. C'est le seul point qui nous rassure sur l'Europe. Tous les autres points, malheureusement, ne sont pas là.
Ça veut dire que l'Europe a une stratégie d'épargne qui est conforme à son vieillissement. Vieillir, c'est avoir des robots, puis c'est aussi avoir dégagé de l'épargne, placer cette épargne dans des endroits où elle sera productive. Et je le disais dans le couloir, mais moi, ce qui m'a frappé dans les formules que reprend Trump, qui est une formule de Peter Navarro, qui est son conseiller économique, qui est un personnage un peu sulfureux, il disait avec l'IRA, qu'est-ce qu'on fait? on fait payer par le contribuable américain, on donne par le biais du contribuable américain de l'argent à des entreprises européennes pour qu'ils emploient des travailleurs mexicains. Et donc c'est un peu ça aussi les États-Unis. C'est un pays qui est un pays qui s'est vendu beaucoup, qui est de plus en plus détenu, qui appartient de plus en plus aux Allemands, aux Japonais, en partie aux Chinois, en partie aux Singapouriens. Donc je crois qu'il faut réfléchir aussi cette démographie en termes d'épargne et de capacité à avoir répondu à son problème démographique avenir, par l'épargne.
Notre avenir est de devenir des rentiers du monde.
Je suis totalement en opposition avec Jean-Marc là. Je pense que les États-Unis ont raison d'attirer l'épargne du reste du monde pour faire. Et c'est pas pour financer des déficits publics idiots, c'est pour financer l'IRA, le CHIPS Act, et donc c'est pour financer la modernisation de l'économie américaine. Les déficits extérieurs américains enrichissent à terme les États-Unis.
Mais parce qu'ils ont des hommes à mettre dans les usines, nous on n'aura que des vieux. Une maison de retraite, elle ne peut pas faire de croissance. Une maison de retraite, elle a besoin d'avoir des revenus, mais il y a un moment où elle n'a pas besoin de capital parce qu'elle n'a pas les moyens de faire fructifier ce capital.
On l'a eu tellement souvent ce débat, et alors effectivement, vous défendez cette idée, vous êtes très souvent en opposition avec la plupart des personnes qui passent ici.
Oui, je sais bien.
Moi, c'est vrai que ça me fait pas rêver d'être une espèce de rentier
Mais je crois que bien,
dans mon EHPAD.
On va laisser la parole au chef d'entreprise, mais c'est pas de rêver ou pas rêver, c'est de constater. Patrick l'a dit, regardez l'Italie, regardez. Est-ce que quand vous promenez dans une ville en Italie, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai été frappé, vous ne croisez plus aucune femme enceinte.
Je sais, il y a une Italienne sur deux en âge d'avoir des enfants qui n'en a pas.
Donc, il n'y a plus d'hommes.
Ça vous inspire quelque chose, Sylvain, cette idée que, tant pis, c'est fini, on est vieux, on a perdu des gains de productivité, tout le monde nous passe devant, donc plaçons notre épargne, et puis voilà, vivons de nos dividendes futurs.
Je vais vous dire qu'on
super BASF s'en va pour les États-Unis.
On n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'on est vieux, on vieillit, et ça ne va pas s'inverser dans les 50 années. Donc, il va falloir faire avec. Effectivement, profiter de la jeunesse des autres et de leur dynamisme, pourquoi pas, parce que c'est ce qui nous reste avec notre argent aujourd'hui. Il vaut mieux aller investir chez les gens qui se bougent un peu et qui arrivent à nous rapporter un minimum de revenus plutôt que de l'investir chez nous où effectivement plus il y a plus de vieux, les normes nous assaillent,
tout ça va se changer, tout va changer.
Comment?
Les normes, ça va
changer. Oui, les normes, ça va changer. J'allais vous l'annoncer vous savez que je suis un spécialiste européen des normes aujourd'hui, j'allais dire français, mais je me sous-estime.
Je suis un peu de l'avis de Patrick, je pense que le trou financier américain d'aujourd'hui, c'est peut-être la prospérité de demain. Quand j'entends
c'est nous les bénéficiaires de cette prospérité, parce que la prospérité américaine, encore une fois, vous regardez la balance des paiements courants américains. Ce que je trouve de frappant, c'est que la part de la rémunération des gens qui ont placé de l'argent aux États-Unis n'arrête pas d'augmenter. Et dans le déficit de la balance des paiements américains, qui est de 1000 milliards de dollars, vous apercevez qu'il y a de plus en plus le poste de rémunération des investissements étrangers est en train de s'alourdir de façon spectaculaire.
Oui, mais à un certain stade, on n'aura même plus besoin de rapatrier les bénéfices faits aux États-Unis. Dans la logique que tu développes, à un certain moment, on va simplement réinvestir aux États-Unis. Donc, je crois que c'est une logique absolument destructrice pour l'Europe. Il faut qu'on fasse tous les investissements de productivité nécessaires. Et par exemple, les Coréens investissent trois fois plus en robots que les Européens. Donc, il y a une marge incroyable d'investissement de modernisation en Europe.
Je ne fais pas contre ça, mais je pense quand même que la tendance lourde de la démographie est telle que notre véritable enjeu, c'est d'avoir de l'argent dans les pays jeunes, les États-Unis, mais aussi, on a parlé de l'Inde, j'arrête pas de dire, notre avenir, il va se jouer à Mumbai et à Abidjan.
Je connais votre point de
plus
vue.
Plus à Mumbai qu'à Abidjan.
La productivité est en baisse, m'écrit Louis, tout simplement parce que nous ne travaillons pas assez. Et puis il y a John qui met si je comprends bien, il faudrait que je déménage aux États-Unis pour échapper aux prévisions de 2050 pour la France. Il n'y a plus d'espoir pour l'interrogation quand même.
Mais non, il ne faut pas lui dire de déménager. D'acheter quelque chose en Californie.
Moi, objectivement,
en continuant à vivre en France.
Je n'achète pas totalement votre raisonnement, Jean-Marc. On a eu ce débat tellement souvent. Je me tourne vers l'actualité économique du jour va commencer 20 minutes après le début de l'émission. Vous aviez travaillé lors de la loi Pacte, Sylvain Eurybis, sur justement le poste simplification. J'ai régulièrement ici Guillaume Poitrinal qui vous a précédé avec Thierry Mandon. Chaque fois, c'est grands espoirs et déceptions. Est-ce que là, vous vous dites, Bruno Le Maire n'a pas fait comme d'habitude, puisqu'il a quand même sondé les entrepreneurs avant de prendre des décisions. Il y a eu tout un débat public qui a été organisé. La complexité, on n'en a jamais autant parlé que depuis un an. Jamais. Ça a été le cœur de l'histoire des agriculteurs. Voilà. Et là, vous avez... Bon, alors évidemment, c'est un catalogue à la Prévert, les 50 mesures, il y a tout. Mais est-ce que vous vous dites, là, il y a peut-être une marche en avant, une sérieuse, j'y crois. Parce que je peux vous faire la liste des lois et la liste des...
Non, le problème, qu'on simplifie la paperasse, c'est très bien. On le fait d'ailleurs depuis quelques années. On avait commencé à simplifier à l'époque. Le problème, malheureusement, n'est pas là. Parce que quand je regarde les 50 mesures annoncées par Bruno Le Maire, ce sont des mesures, supprimer des lignes sur la feuille de paye, je ne pense pas que ça libère l'économie française.
Vous prenez un peu supprimer, la plus...
celle-là.
Oui, c'est l'affichage.
Il était sur France 2 hier soir au journal, il a parlé de ça en premier. Anne-Sophie Lapix l'a interrogé sur le changement du nombre de lignes de la feuille de paye.
Oui, c'est le truc visible. Mais le dites-le-nous une fois,
On l'a eu déjà en 2017. Je pensais que c'était déjà là. J'étais surpris de voir qu'il n'y était pas encore. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on a trop de normes.
Là.
Alors, si mes chiffres sont bons, on a 400 000 normes en France contre 80 000 en Allemagne. On a, à l'époque, j'avais le chiffre de 60 milliards d'euros par an de coûts administratifs pour les entreprises. Bruno Le Maire a dit hier soir 84 milliards.
84 milliards. J'ai pensé à votre chiffre.
84 milliards.
Voilà. Et il l'a effectivement actualisé.
Et donc, à l'époque, en 2017, c'était 60 milliards. C'est-à-dire qu'on a ajouté 24 milliards de coûts pour les entreprises. C'est du coût pour les entreprises annuel complexité administrative. Donc, on n'a pas du tout avancé. Il faut supprimer des normes. On a 400 000 normes en France contre 80 000 en Allemagne. Il faut les supprimer. Et à l'époque, Édouard Philippe avait instauré une règle qui était chaque nouvelle norme doit donner lieu à la suppression de deux anciennes normes.
Oh, je l'ai entendu mille fois, celle-là. Mais,
eh bien, et c'est pourtant dans la loi.
Oui,
projets de loi à l'Assemblée doivent comporter une partie simplification, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est au niveau des normes...
Le Maire. Oui. Loi annuelle de simplification.
Oui, mais on l'a dit déjà en 2017. Le problème, Thierry Mandon et Poitrinal avaient dû l'annoncer précédemment. Le problème, c'est les normes. Et le problème, il est encore plus compliqué à résoudre parce que ce ne sont pas que les normes françaises, ce sont les normes européennes. Et là, l'Europe nous impose un nombre de normes que vous n'imaginez pas, une complexité que vous n'imaginez pas. Très souvent... Les règles viennent de Bruxelles et là c'est beaucoup plus compliqué de lutter contre cela, et les Français ne se rendent pas compte que quand ils votent aux élections européennes, ils votent pour des gens. Alors là, aujourd'hui, hier c'était les écologistes, aujourd'hui c'est le Rassemblement National, pour des gens qui sont contre le libéralisme et qui imposent des normes, contrairement à ce qu'ils disent, ils imposent des normes. Les écologistes, ils nous ont ajouté des dizaines et des centaines et des milliers de normes chaque fois qu'ils sont à Bruxelles. C'est là-bas que ça se joue, et c'est pas tant ici, chez nous. Donc, clairement, il y a un certain nombre de choses à faire qui est dans la réduction des normes, qui est aussi dans le changement des seuils pour les entreprises, les 10, les 50, les 250. Je lutte encore.
Ça a été considéré comme trop compliqué cette fois-ci.
Je lutte, mais
simplifié.
C'est pas trop compliqué. C'est trop touchy, comme on dit touchy en anglais, de modifier ça. Mais être aujourd'hui considéré, ne plus être considéré comme une PME quand vous avez 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est grotesque. C'est le même chiffre, d'ailleurs, qu'il y a 20 ans, comme s'il n'y avait pas eu d'inflation, comme si le monde n'avait pas bougé.
Quand on passe de PME à ETI.
Et quand vous passez de PME à ETI, dans le monde entier, on vous félicite. Vous avez grossi, on vous dit, bravo mon gars, on va t'aider. Non. En France, on vous dit, tiens, on va te taxer, tu n'auras plus droit à ci, tu n'auras plus droit à ça, tu as des normes supplémentaires. Parce que les PME, elles ont des normes plus légères que les ETI.
Même l'IS est plus.
Voilà. Tout est plus compliqué quand vous grandissez en France et en Europe. Et donc, je dis, c'est là qu'il faut faire porter l'effort, plus que sur le nombre de CERFA, la réduction de nombre de lignes du bulletin de paye. Ce qui est très bien en soi, mais c'est pas du tout suffisant et c'est pas à la hauteur des économies qu'on veut réaliser.
On marque une pause. Dans un instant, Patrick Artus et Jean-Marc Daniel, vous me donnerez votre avis sur... Alors, il n'utilise plus le mot de choc de simplification, Bruno Le Maire, parce que ça, c'est bon, les chocs, là, les chocs qui conduisent à des pichenettes. Après, on peut dire un mot d'Albert, si vous voulez, c'est l'intelligence artificielle de Matignon. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, qui va publier mi-mai, avec Marie-Paul Virard, quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde, chez Odile Jacob. Sylvain Aurébi, président d'Orientis, Lété Kousmi, Jean-Marc Daniel, le professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec à la une du mois d'avril, qui aime l'Europe ? Point d'interrogation. Ce que disait Sylvain est parfaitement juste, la question des seuils, les seuils entre TPE, PME, ETI, a été repoussée à un autre jour, considérée comme compliqué, mais touchy, effectivement. Et la question des normes a effectivement été repoussée également, puisqu'il va y avoir une... On a lancé les revues de dépenses, on fait les revues de normes, là.
Formidable.
Formidable. Déçu, Patrick Artus, par les Bruno Le Maire et la simplification.
Oui, mais on n'attendait pas que Bruno Le Maire puisse s'attaquer aux normes, quoi. Je veux dire, d'abord...
Comme il a été dit à l'instant,
c'est, les normes sont de la transposition en général en droit français de règles européennes. Donc on peut pas. Le problème, c'est que ça crée un biais de compétitivité croissant de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Et donc il y a le biais de compétitivité maintenant sur les investissements, sur l'Inflation Reduction Act, sur le Chips Act. Et puis il y a le biais de compétitivité qui résulte du fait que les économies, les États-Unis sont une économie qui a nettement moins de normes que l'Europe. Et donc, on n'est pas étonné j'en viens au débat d'avant, du flux de capitaux européens qui vont vers les États-Unis. Vous savez que les États-Unis reçoivent 6% de leur produit intérieur brut en capitaux à long terme chaque année du reste du monde. Et l'Europe reçoit 0% de capitaux à long terme du reste du monde. Donc ça, c'est représentatif de l'attractivité de l'économie américaine. Tout compris, quoi, je veux dire, le dynamisme, la recherche-développement, les normes, les incitations fiscales. Donc il faudrait que l'Europe redevienne beaucoup plus attractive. Hein, l'Europe n'attire pas de capitaux étrangers.
Mais c'est sans issue ce que vous décrivez, parce que l'Europe ne va pas revenir en arrière.
Non.
Le toilettage des normes au niveau européen n'aura pas lieu.
Ben oui, mais ça nous crée. Il faudrait qu'on réfléchisse systématiquement au handicap de compétitivité que ça crée pour l'Europe vis-à-vis du reste du monde.
Ah oui, mais alors là. Bon, après, on n'est pas obligé de surtransposer tout ce que l'Europe nous propose. Et on rappelait avec Robin Rivaton hier l'histoire du DPE. C'est la France qui transpose l'obligation de DPE et qui ajoute que les plus mal notés pourront plus louer début 2025. Ça n'était pas dans les exigences de départ. Fantastique. C'est un exemple super concret. Même déception, Jean-Marc Daniel.
Non, pas de déception parce que je n'attendais rien de ce genre de choses. Donc j'avais proposé d'ailleurs, on l'a dit au moment de la matinale, d'appeler la chronique de notre débat simplification en deux points en fumage. C'est de la fumage, mais et c'est plutôt rassurant, hein, je veux dire, c'est assez conforme à la façon dont est gérée la politique économique depuis que Monsieur Le Maire est à la tête de Bercy. Donc je le trouve assez cohérent et assez fidèle à lui-même, donc ça me rassure. Alors après, si vous voulez, le summum du ridicule, c'est quand même cette histoire de supprimer des lignes dans le bulletin de paix.
Oui, celle-là.
S'ils veulent supprimer des lignes dans le bulletin
de paix. Ça simplifie rien, c'est juste que.
Ça m'a fait penser au moment, vous savez, dans cette pièce où il y a des personnages qui rentre et puis qui voit une jeune femme et il lui dit cacher ce sein que je ne saurais voir. Donc là, c'est cacher ces lignes que je cacher ces impôts que je ne saurais voir. Je rappelle que ce personnage, c'est Tartuffe. Et donc, je pense que tous ces gens qui veulent qu'on cache des choses, ce sont des Tartuffes. Alors après, sur le fond, s'ils veulent véritablement simplifier le bulletin de paix, je maintiens, au lieu de supprimer des lignes, ils n'ont qu'à supprimer les impôts qui correspondent à ces lignes.
Il faut supprimer les lignes et leur contenu.
Voilà, et leur contenu. Et à ce moment-là, il y aura une simplification positive et utile pour la croissance économique.
Bon, donc, mais enfin, je sais pas, l'histoire du test PME, ça paraît pas débile, le test PME. Allez, je fais une mesure pour les PME, je vous la soumets, vous, PME, vous la testez avant qu'on la vote. C'est pas...
Je crois que c'est pas débile. C'est des mesures d'impact qui sont censées être faites régulièrement. Après, je sais pas dans les faits comment on va pouvoir tester une mesure qui n'a pas encore été votée, tester auprès de qui, sous quelle forme.
C'est vrai.
C'est pas toujours simple, mais pourquoi pas?
Alors, il y a plein de demandes. Il y a plein de demandes d'autorisation qui devraient disparaître. Il devrait plus y avoir à terme l'obligation pour une entreprise de déclarer les arrêts maladie, parce qu'en fait, la sécurité sociale a maintenant les moyens automatiquement de pouvoir être informée. Dites-le nous une fois, moi, effectivement, je croyais que ça existait déjà. Le coût des CERFA, j'ai tout le monde redoute que leur disparition ne se traduise par une réincarnation en autre chose.
Ah oui,
que 1800 CERFA. En plus, c'est un organisme qui a disparu depuis 15 ans. L'organisme historique CERFA, parce que c'était le nom. Voilà. Bon, le bulletin de salaire, c'est un peu le. Vous avez remarqué dans un texte de loi, les gros titres de la presse généraliste s'accrochent toujours à un truc. Alors que, quelquefois, il y a 200 mesures, mais il y en a une. Et ça m'étonne pas que la question ait porté hier sur le bulletin de salaire. En plus, c'est la seule mesure visible un peu pour tout le monde. Après, il y a des quantités de choses. Bon, visiblement, il y a certaines obligations qui ne risqueront plus d'emmener en prison le chef d'entreprise.
C'est déjà une bonne nouvelle.
Ah, c'est pas mal, ça. C'est, bon. La mensualisation des loyers des baux commerciaux, qui parfois sont trimestriels.
Ah oui, non, mais bon, ça, c'est plafonne. une mesure, mais c'est pas une simplification, c'est une mesure pour la trésorerie des entreprises.
Oui,
c'est que les bailleurs aujourd'hui vous demandent d'avance 3 mois de loyer, ce qui est absolument anormal. Donc on va passer à une mensualisation, ce qui est très bien. En plus, il vous demandait 6 mois de garantie sur les loyers.
C'est 3 max maintenant.
Voilà, maintenant c'est 3 max. Parfois, c'était plus de 6 mois. Donc, ça va redonner de la trésorerie aux entreprises, aux commerçants, ce qui est une très bonne chose. C'est pas vraiment une simplification.
Oui, non,
c'est
non.
Une bonne mesure.
Voilà, il y a quand même. Alors, eh bien, il y en a 50. J'ai pas fait la liste des 50. J'ai pris les principales. Bon, une plateforme numérique unique pour l'ensemble des marchés publics, qui va s'appeler Place. Voilà. Et qu'en cas de contentieux, il n'y aura que et seulement le juge administratif de compétent.
Non, mais il faut reconnaître une chose, c'est que l'État s'est digitalisé.
Alors,
c'est
ça,
aujourd'hui, on se déplace plus, tout se fait en ligne, se fait assez facilement. Regardez votre. Alors, ils sont très bons sur les impôts.
Ben, les impôts, c'est
pour,
quand même.
Pour déclarer vos impôts ou pour porter une réclamation ou tout. C'est ultra simple, ils ont trouvé. Pour payer aussi, d'ailleurs. Enfin, tout ça est très simple. Non, mais c'est vrai que tout fonctionne. Et l'État s'est beaucoup digitalisé. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était Thomas Cazenave qui était le délégué interministériel à la transformation, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et c'est lui qui avait travaillé en 2017 sur cette histoire de simplification, de digitalisation. Et pour le coup, ça fonctionne. Donc, ça nous a un peu simplifié la vie.
Non, mais ça
mais il reste tellement de poids administratif encore.
Bon, Patrick nous l'expliquait à juste titre. Quand on manque de main-d'œuvre, on met des robots. Là, dans l'administration, c'est l'inverse. Quand on met des robots, on rajoute de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires que depuis que l'État est en train de se numériser.
Je suis d'accord.
C'est quand même.
C'est un peu le travail. C'est pas vraiment le travail de Bruno Le Maire. C'est plus celui de Stanislas Guérini, qui est censé normalement nous
Bruno
faire
Le Maire,
une réforme.
Il a sous son autorité la direction du budget, donc il serait bon qu'il tienne compte de ce que raconte la direction du budget.
Jean-Marc, à Bercy, au ministère des Finances, il y a beaucoup moins de salariés qu'avant.
Oui, j'entends bien.
Bercy a fait une vraie modernisation et une vraie gain de productivité.
Mais il n'y a pas que Bercy, quand même, qui peut être robotisé.
Mais justement, il n'y a pas que Bercy. Alors, il y a eu l'histoire de l'annonce de la généralisation des expérimentations d'Albert par Gabriel Attal, l'intelligence artificielle du gouvernement. Il y a donc 26 agences France Service qui, depuis octobre, expérimentent, au-delà simplement des questions liées aux impôts, tout type de questions. Albert est là pour répondre à vos questions, vous, usagers, comme on dit. Eh bien, le bilan des courses, c'est que dans 70% des cas, les agents et les usagers sont satisfaits. Dans les 3/4 des réponses écrites générées par Albert, les éléments étaient parfaitement fiables et n'ont donné lieu à aucune modification après relecture par un agent, par un humain de l'administration. Le temps de réponse de l'administration est passé de 7 à 3 jours et les mots utilisés sont clairs et intelligibles par tous. On peut se dire que là, on a une vraie technologie. Et c'est tout frais, hein. Ça a vu le jour en juin 2023. Ça a été créé par la DINUM, la Direction Interministérielle du Numérique, pilotée par un ingénieur français. C'est donc présenté comme une IA souveraine. Et les résultats sont probants et ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est... Bon, on va peut-être
Non, mais enfin, c'est le moins qu'on puisse en attendre.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire que nous tous, nous, on n'a pas Albert, mais enfin, on a Microsoft Copilot, qui est un chat GPT qui est inséré dans mon navigateur et dans mon réseau d'entreprise, qui fait que je peux poser des questions et trouver les réponses dans les documents de l'entreprise. Dans mes mails, dans tout ce qui a été créé par l'entreprise, et l'IA me répond sur la base de ces documents. Donc évidemment, si vous rentrez tous les documents, toutes les lois, tous les règlements, Albert, il va vous donner les bonnes réponses. Il donne des réponses extrêmement efficaces et extrêmement rapides.
Mais des réponses qui font foi.
Oui, bien entendu.
Albert vous a répondu, l'administration. Mais si Albert vous dit oui, l'administration.
Mais c'est
vous
ce qu'on
oui.
fait dans les entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai demandé à mes directeurs de me trouver 3 points irritants dans leur boulot de tous les jours pour essayer de trouver une solution grâce à l'IA. Tous les jours, on a quelque chose qu'on est obligé de faire, qui est répétitif, qui est compliqué, qui est pas fluide. Eh bien, on va les identifier et on va, grâce à l'IA, résoudre ce type de problème. Donc, il est normal que l'État le fasse. On s'extasie en disant « incroyable », mais enfin bon, c'est quand même ce qu'on fait tous dans les entreprises. Et il est bien que l'État le fasse aussi rapidement.
Je trouve ça très très bien. Ça va assez vite. Été 2023, le produit est en place. Début de l'expérimentation d'abord à Bercy, comme toujours, puis ensuite dans d'autres services publics, notamment les maisons France Service, qui sont des espaces qui regroupent physiquement les principales démarches administratives que les Français sont amenés à réaliser. Et maintenant, généralisation, ben voilà, écoutez, on y va.
Mais quand même, Jean-Marc a dit une chose, c'est que ça ne va pas supprimer des fonctionnaires, tout ça. C'est-à-dire qu'on va les utiliser à autre chose.
On devrait supprimer des emplois. Non, dans une entreprise, quand on fait
en théorie, de l'investissement
technologique, le résultat, c'est qu'on fait des gains de productivité,
en théorie,
donc on supprime
des
emplois.
C'est totalement vrai. En théorie,
Oui, mais sur l'IA, ce n'est pas sûr. Il y a des papiers de recherche qui sortent aux États-Unis qui disent qu'il ne faut pas attendre de l'intelligence artificielle des gains de productivité parce qu'il y aura des coûts induit de l'intelligence artificielle, des coûts de vérification, des coûts de falsification, et en fait que ça sera, ces coûts s'équilibreront avec les avantages de l'IA et que ça sera à peu près neutre sur la productivité.
Vous posiez la question le 27 mars dans les Échos, Patrick Artus, et alors c'est une question vraiment fondamentale puisqu'elle est au cœur de ce qui s'est produit à la suite du programme de stabilité et de l'avis du Haut Conseil des Finances Publiques. Faut-il corriger le déficit public ? J'ai posé cette question à François Eckalf, spécialiste des finances publiques, qui considère que compte tenu des perspectives de croissance, c'est pas forcément la priorité. Et vous posiez la question dans les Échos fin mars.
Ben, je crois que là, enfin, on a bien identifié que les deux problèmes majeurs de la France, c'est un, l'absence de gains de productivité, et deux, le taux d'emploi trop faible. Et si vous faites un effort considérable de réduction du déficit public, vous risquez d'aggraver ces deux maux français. Vous aurez moins d'investissements publics de développement de la productivité, hein, moins d'investissements en R&D, en technologie, et puis vous aurez moins de budget pour la reconversion, la formation, pour France Emploi, etc. Donc, je crois que ça serait optimal d'inverser les choses, c'est-à-dire de corriger d'abord le déficit de productivité et le déficit de taux d'emploi, puis de, grâce au supplément de croissance que ça permettrait d'obtenir, de corriger le déficit public. Et puis, les nouvelles règles européennes nous permettent de faire ça. Puisque si vous faites des investissements qui vont stimuler la croissance, améliorer la soutenabilité de la dette, vous avez le droit d'étaler votre programme de retour à 3% du PIB ou de déficit ou à moins, parce qu'il faut faire baisser la dette publique, sur 7 ans. Donc on a le temps de faire des investissements qui procureront davantage de recettes et puis qui, dans un deuxième temps, simplement de réduire le déficit public. Donc je suis d'accord avec François. Le vrai danger, si vous faites aujourd'hui un programme de réduction des dépenses publiques important, c'est que d'abord, les dépenses publiques que vous allez couper, c'est des dépenses productives. On l'a vu. La recherche, le ministère de l'Emploi, le ministère d'Éducation.
Contrat d'apprentissage.
Voilà. Et donc, vous aurez encore moins de croissance et que finalement, vous aurez une perte de recettes fiscales qui va entamer votre capacité à réduire les déficits publics. Donc je suis d'accord avec François, il faut...
Acceptons une période de rouge pour relancer la machine.
À condition de faire les bonnes dépenses publiques.
Oui.
Donc, il faut faire des... Mais on sait à peu près ce qu'il faut faire. Je veux dire, il y a plein d'évidences empiriques, académiques qui montrent qu'on n'investit pas assez en R&D, on n'investit pas en R&D assez fondamentale, on n'investit pas assez en nouvelles technologies. Et donc, ça n'empêche pas de changer la nature des dépenses. Mais réduire le total des dépenses, je crois que c'est effectivement pas une bonne stratégie.
Jean-Marc, votre avis là-dessus, c'est pas le moment de réduire le déficit, il faut accepter une période de rouge en redirigeant nos priorités d'investissement et de dépenses publiques vers les dépenses d'avenir.
Non, je suis pas du tout d'accord avec
pas
ça.
Pas du tout d'accord avec
le
ça.
Le discours, ça me rappelle le discours de Jacques Chirac, vous savez, quand il y a des recettes,
c'est la cagnotte, et il faut rendre aux Français en baissant les impôts. Oui, il faut rendre aux Français en baissant les impôts le fruit de leur travail. Et puis quand il y a un ralentissement de la croissance économique, il faut soutenir l'activité économique par la dépense publique. Moyennant quoi, on n'équilibre jamais les comptes publics. Donc je pense qu'effectivement, c'est la formule célèbre de l'équipe de Kennedy, il vaut mieux réparer le toit quand il fait beau plutôt que quand il pleut. Je pense que globalement, les règles européennes font aussi la distinction entre le déficit structurel et le déficit conjoncturel, qu'on accepte un déficit conjoncturel quand on est dans une phase effectivement de ralentissement cyclique de l'économie, ça me paraît tout à fait sain et tout à fait normal, sachant que en ce moment d'ailleurs, les derniers indices PMI montrent que la phase du cycle est plutôt en train de se retourner vers une phase plus porteuse.
On a déblayé hier en zone euro.
En zone euro, on voit
bien. Passe la barre des 50.
Et puis ensuite, il faut s'attaquer au déficit structurel. Alors là aussi, sur tous les enjeux de finances, de redressement des finances publiques, toutes les études qui ont été faites dans les années 80, dans les années 90, avec à l'époque la grande question du multiplicateur. On parlait encore de multiplicateur keynésien et on se disait le multiplicateur il est positif quand on augmente la dépense, il devient négatif quand on la contracte. Et les travaux de l'OCDE ont bien montré que effectivement il y a un effet Courbangy. Dans un premier temps, on cale, et puis après, on repart. Regardez ce qui s'est passé au Portugal, regardez ce qui s'est passé en Irlande. Et donc, quel est le pays où il y a le plus de gains de productivité en ce moment dans la zone euro? C'est l'Irlande. L'Irlande qui était le I des PIX d'il y a une dizaine d'années, qui a fait un effort considérable de redressement de ses finances publiques.
Ce n'est pas le moment auquel vous le faites.
Je ne pense pas que c'est le moment, je pense que c'est la nature des dépenses.
C'est-à-dire... ce que disait Patrick.
Oui, d'accord, mais ça veut dire concrètement qu'il faut se donner un objectif de baisse du déficit, de baisse des dépenses publiques, en disant, je vais cibler un certain nombre de dépenses qui sont effectivement peu porteuses de croissance économique. Après dire...
Vous avez vu les montants, Jean-Marc, là, qui sont devant nous. Les montants,
j'entends bien, mais vous avez, 55% du PIB qui est en dépenses publiques. Vous avez vu le montant. 55%. Vous l'avez vu, ce montant. Donc 55%, on doit pouvoir faire des dépenses. Et ensuite, effectivement, moi, ce qui m'a frappé, et puis je vais donner la parole à Sylvain, mais quand vous regardez le nombre de doctorants, puisqu'on dit, effectivement, l'université, le nombre de doctorants a baissé considérablement sur les deux ou trois dernières rentrées scolaires. Et où ça baisse? Ça baisse dans les sciences fondamentales. Ça se maintient en sociologie, en psychologie, en histoire du bien-être. Tout ça, ça se maintient. En revanche, les doctorants en sciences pures, en mathématiques, mathématiques appliquées, physique, on assiste à un effondrement. Et donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu qui n'est pas uniquement budgétaire, qui est de se poser la question du mode de fonctionnement de notre éducation. Il ne s'agit pas de dire il faut augmenter les dépenses d'éducation, il s'agit de dire à quoi servent ces dépenses d'éducation.
C'est pas totalement antinomique ce que vous dites tout
le temps. Non, mais j'entends bien, mais ça veut dire baisser le déficit. Oui. Je dis non, il faut baisser le déficit, il faut avoir le courage de dire il y a un vrai problème de qualité et on ne le résoudra pas en disant il faut attendre qu'il fasse beau.
Vous me parliez de Courbangy, Daniel, et si on s'amuse, enfin, si on commence à taper à coups de 20-25 milliards par an, le bas du J va être sévère quand même. Là, c'est sur des gros montants. C'est pas.
Écoutez, encore une fois, 55% du PIB est en dépenses publiques. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'État doit être le seul à faire des efforts. Hein. Encore une fois, là aussi, quand vous regardez la durée du temps de travail normal dans la fonction publique, c'est 1660 heures. Le dernier rapport de la Cour des comptes dit que dans les collectivités locales, c'est 1572 heures. Et quand un préfet dans l'Indre demande à ses collectivités locales de mettre à 1660 heures, on renvoie le préfet en disant oh là là, ça va mettre le feu sur le plan social. Donc, il y a un moment où, encore une fois, il ne s'agit pas de dire c'est pas le moment, il s'agit de dire c'est le moment et voilà comment on va faire, parce que l'enjeu c'est effectivement d'avoir des dépenses publiques efficaces.
Sylvain, ça vous inspire une réaction? Deux économistes qui s'écharpent sur le...
Non, ils ne sont pas écharpés.
J'ai pas le sentiment
qu'ils aient dit des choses vraiment contraires l'un et l'autre.
Non, c'est pas totalement antinomique.
Vous savez, l'ego des économistes, il faut qu'ils aient raison. Donc, il dit je ne suis pas d'accord avec lui, puis après, il répète la même chose.
Il y a un moment,
Il fréquente beaucoup la profession.
Je suis pas d'accord avec lui. Non, mais c'est vrai que quand on vous écoute tous les deux, on a des éléments complémentaires.
Je suis pas assez fin pour détecter les.
Mais il y a un moment, Patrick, il faut bien prendre des décisions quand on est à la place de Bruno Le Maire.
Oui, mais juste un mot. Si nous avions le taux d'emploi des Allemands, c'est-à-dire qui est 10 points plus élevé que le taux d'emploi des Français, ça veut dire que les Allemands ont 14% de plus d'emplois que ce qui correspond à notre taux d'emploi français. Alors, c'est des emplois peut-être un peu moins productifs que la moyenne, mais c'est pas évident. On aurait peut-être 12% de PIB en plus. On aurait 12% de recettes fiscales en plus. Et donc, on aurait 6 points de PIB de recettes fiscales en plus. On aurait 12% de PIB en plus. Si on calcule le poids des dépenses publiques dans le PIB avec ce taux d'emploi des Allemands, il est à peu près le poids des dépenses publiques dans le PIB de l'Allemagne. Et donc, la réalité, c'est qu'on n'a pas trop de dépenses publiques. Elle est mal affectée.
On n'a pas assez de gens.
Mais on n'a pas assez de gens au travail. On n'a pas assez de gens qui produisent du revenu.
Oui, alors, je dirais à mon ami Patrick, contre le chômage, on a tout essayé. Et donc, qui nous explique comment on va atteindre ce taux d'emploi. En revanche, là où je suis d'accord, on ne travaille pas assez. On travaille, vous le rappelez vous-même d'ailleurs régulièrement, la moyenne de l'OCDE, c'est 805 heures de travail annuel par habitant. Et en France, c'est 603.
Donc, on est en dessous de 610.
Oui, si on mettait les agents des collectivités territoriales au travail, si on passait de 35 heures à 39 heures ou 40 heures...
Vous voyez qu'on n'a pas tout essayé.
Non, mais on n'a pas essayé
de passer de 35 à 39 heures.
Oui, absolument. Mais ça, ça n'augmente pas le taux d'emploi. Ça augmente la quantité de travail.
Quand on voit,
et donc, je pense qu'il faut augmenter la quantité de travail à hauteur des outils dont on dispose.
Quand on voit ce qui vient de se passer à la SNCF, je doute de notre capacité à augmenter le nombre d'heures de travail des Français.
Mais ce qui se passe à la SNCF reste à la SNCF.
Non, pas du tout.
SNCF, comme il n'y a que des cas SNCF.
C'est typiquement français. Comment voulez-vous ? On est tous d'accord qu'il faut plus faire travailler les Français. Et comment le faites-vous ? La question est, comment fait-on travailler les Français plus et les faire travailler autant que les autres Européens ? C'est la grande question et aujourd'hui, personne n'a la réponse. On est la veille de l'élection européenne, le lendemain, on sera la veille d'élections municipales, puis on sera la veille d'élections présidentielles. Et en fait, les décisions ne sont jamais prises parce que, politiquement, c'est inassumable.
Bruno Le Maire vous dira dans son dernier bouquin qu'il faut très fortement alléger le prix du travail en basculant une partie du financement du travail sur l'impôt.
Qu'il le fasse.
Et puis d'autres vous diront qu'il faut avoir un effort de formation dès l'enfance qui soit absolument
une
révolution.
Ça, c'est certain.
Oui, mais vous savez que... oui, et Jean-Marc parlait des nombres de thésards scientifiques.
Oui.
Si vous regardez l'enquête TIMSS, vous savez qu'on est 63e sur 64 sur le niveau en maths et en sciences des jeunes. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Donc si vous corrigez les déficits publics uniquement en baissant les dépenses publiques, vous y arriverez pas. Vous courrez après les déficits publics. Il faut corriger l'éducation, le nombre de scientifiques, le nombre d'ingénieurs. Et donc c'est un programme sur 10 ans.
Mais c'est un peu copernicien.
Mais ça n'empêche pas de commencer à sortir des dépenses inutiles et de remettre les agents des collectivités territoriales au travail.
Je suis d'accord, mais les dépenses inutiles, il n'y a aucun problème. Simplement, soudainement, comme jamais, les énormes montants qui nous parviennent et qui vont se cumuler d'ici à 2027. Le Haut Conseil a dit qu'il fallait 65 milliards d'euros minimum d'aujourd'hui à 2027.
Oui, mais il faut doubler.
C'est-à-dire quand
vous réduisez les dépenses publiques d'un euro, vous ne réduisez le déficit public ex post que d'un demi-euro à cause de l'effet sur la croissance. Donc si le calcul mécanique vous dit qu'il faut baisser les dépenses publiques de 65 milliards, il faut en réalité baisser les dépenses publiques de 130 milliards pour réduire le déficit public de 65 milliards.
Je rappelle que dans le programme d'Emmanuel Macron 2017, il y avait 60 milliards de baisse des dépenses publiques.
Et 120 000
fonctionnaires. Et 120 000 suppressions d'emplois. Il s'agit qu'il applique son programme, c'est pas très compliqué. Monsieur Bruno Le Maire devrait appliquer le programme du président de la République auquel il est attaché.
4 minutes 20, Christian Noyer, demain, l'Union des marchés de capitaux. Alors, ça fait maintenant quelques semaines qu'on commence à rentrer dans le dur dans cette émission sur qu'est-ce que c'est. Il va remettre un rapport à Bercy pour avancer sur ce chantier inachevé. On a mis des années déjà à essayer d'aboutir sur l'Union bancaire, c'est à peu près fait. L'Union des marchés de capitaux, Christian Noyer nous dit, il faut un produit d'épargne en Europe, il faut relancer la titrisation et il faut une supervision unique par le gendarme européen des marchés financiers. Voilà les trois pistes. Vous croyez à l'Union des marchés de capitaux comme une sorte de nouvelle marche historique à l'instar de l'arrivée de l'euro et de la création de la BCE, Jean-Marc ?
Je pense que c'est indispensable.
Indispensable.
Je pense qu'il faut y aller. Je pense que
au but, là, on a
Peu de temps. Oui, donc très peu de temps. Je pense que Christian Noyer a raison. Je partage ces trois...
Mais qu'est-ce que ça va changer, l'union des marchés de capitaux ?
Mais ça va faire en sorte qu'il y ait un marché européen de l'épargne et ça va permettre effectivement de faire circuler davantage et plus simplement les capitaux. Je pense qu'il y a un non-dit, et puis je vais donner la parole à mes colistiers, mais je pense qu'il y a un non-dit sur le maintien des banques centrales nationales. Je rappelle quand même qu'au tout début de la négociation de Maastricht, il y avait dans l'idée que les banques centrales nationales devaient disparaître. Je pense qu'un des moyens de favoriser cette union de marché de capitaux, c'est d'avoir une seule banque centrale.
En fait, de facto, on n'en a qu'une.
Mais non, justement.
Oui,
elles se renforcent de plus en plus. Et depuis la crise des dettes publiques en Europe, elles ont pris de nouveau un rôle. Je pense que un des éléments aussi, c'est de casser cette dynamique de maintien de structure nationale.
Comment on représenterait les intérêts de chaque pays de la zone euro au sein du directoire de la Banque Centrale Européenne? Par quelqu'un d'autre?
On ne représenterait pas.
On ne les représenterait pas. On est dans la zone euro. On est dans la zone euro.
C'est quand même présenté comme...
Il n'y a pas, que je sache, la région Nouvelle-Aquitaine, à laquelle je tiens beaucoup, n'a pas de représentant à la Banque de France.
Non, mais d'accord. En tout cas, c'est présenté, cette union des marchés de capitaux, comme la marche supplémentaire qui peut justement sortir du marasme terrifiant dans lequel nous
sommes.
Patrick Artus, vous croyez à ça? Vous tenez à ça?
L'Europe est essentiellement financée par les banques. On n'est pas les États-Unis.
Absolument.
Et donc, quand on fait l'union des marchés de capitaux, si ça marche, vous ne touchez que 20% des financements des entreprises. Et donc, l'essentiel du problème, c'est que les financements bancaires ne circulent pas d'un pays à l'autre, parce que chaque pays veut garder sa liquidité bancaire pour financer des projets d'investissement dans le pays. Et donc, il faut décloisonner le marché des financements bancaires. Aujourd'hui, si une banque française pan-européenne ne peut pas utiliser sa liquidité pour financer un crédit en Italie, par exemple. Et donc, il faut ouvrir les frontières aux flux de capitaux transeuropéens bancaires sur le crédit et sur les dépôts.
Et une question, la question qui se pose quand même, c'est pourquoi on ne commence pas par avoir une seule fiscalité en Europe?
Parce que ça, c'est exactement venir là-dessus.
C'est ça le sujet primaire, en fait.
Enrico Letta a dit que c'était l'un des éléments auxquels il fallait penser.
Aujourd'hui, vous avez des taux d'imposition qui sont différents dans chaque pays. Et si on commençait par les mettre tous au même niveau,
Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut faire jouer à la concurrence fiscale.
Oui, mais en fait, si on a une banque centrale, si on n'a plus qu'une banque centrale et qu'on ouvre les marchés des capitaux et de l'épargne à tout le monde, il faut qu'on ait tous la même fiscalité.
Mais pas du tout. À ce moment-là, la concurrence jouera et on aura tous la même fiscalité parce que chacun sera obligé de réagir par l'intermédiaire de la concurrence.
Si on commence à se mettre en concurrence à l'intérieur de l'Europe, alors qu'on est déjà en concurrence difficile par rapport au reste du monde, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Moi, je pense qu'il faut absolument que la fiscalité soit la même partout pour que
Enrico Letta
ne se pose pas la question.
La même chose.
Mais Enrico Letta, c'est un dirigiste.
Enrico Letta est un type formidable.
C'est
d'accord
un dirigiste assumé, avéré, protectionniste.
Mais là, en l'occurrence,
la convergence des fiscalités des produits d'épargne, Patrick, en un mot, vous pensez que c'est l'une des briques qu'il va falloir mettre sur la table?
Oui, mais on n'est pas très loin de l'arrivée. À peu près le prélèvement libératoire à 30%, et c'est très près de la moyenne européenne. Il n'y a plus d'écart massif entre les fiscalités de l'épargne.
Bon, merci à vous d'avoir été là. On n'a pas évoqué les rachats d'actions, 1100 milliards de dollars de rachats d'actions en 2023. Bon, je poserai la question un autre jour, n'est-ce pas? Et demain, on aura parfait des gens tout à fait intéressés par le sujet. Merci Patrick Artus. Donc, quelle France en 2050? Bon, vous êtes arrêté à 2050, effectivement. Qui aime l'Europe, à la une de Pour l'Écho. Merci Jean-Marc Daniel d'avoir été avec nous. Et Sylvain Réby, président.
J'ai rien à vendre,
Vous vendez et vous faites des fiches de paye tous les mois.
Voilà,
et ça, je suis désolé.
Et ça vaut de l'or.
Absolument. Bon, on a fini. Hein, à demain.
Fini.
9h. Voilà.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.